Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
À mon âge, je peux dire de moi n'importe quoi, je n'ai rien à prouver. Ou alors, j'aimerais prouver un talent littéraire. D'où l'écriture du roman. Mais attention, il y a des sentiments qu'il ne faut pas avouer. Son amour, même s'il est sincère, il n'aurait jamais dû en parler, pas même se l'avouer à lui-même. Voici des expressions hélas fréquentes, bienveillantes, enfin se croyant bienveillantes, bien pensantes, et qui n'ont pas disparu. Amours interdites entre chrétiens et musulmans, ou entre chrétiens, ou entre musulmans, oui, non, les amours interdites peuvent se situer ailleurs. « J'inventais ma vie » de Marie-Pierre Isser venait de paraître, nous étions en 2004, et elle était l'invitée d'Hélène Azéra dans un « Surpris par la nuit » réalisé par Nathalie Salle, Marie-Pierre Isser à qui fut consacré un film sorti au printemps 2013, « Bambi ».
Surpris par la nuit.
J'inventais ma vie, Marie-Pierre Isser. J'inventais ma vie, un roman de Marie-Pierre Isser, édité par une petite maison d'édition, a peu de chances de rencontrer l'attention du grand public. C'est regrettable, car ce premier roman est une singularité à plusieurs titres. Un roman d'apprentissage où un personnage en devenir marie ses tourments intimes à ceux de l'Algérie des dernières années de la colonisation. Un tour de force stylistique, pendant 150 pages, la figure de la narration ne s'accorde ni au masculin ni au féminin.
Il y avait en 1958... au lycée Bugeaud d'Alger, une ombre blonde qui ne payait pas de mine. On flairait pourtant une énigme. On remarquait sa fluidité et on lui aurait conseillé de faire du sport de plein air pour prendre corps et forme ou de sortir avec ses camarades pour s'émanciper un peu et leur ressembler enfin. Rien ne lui aurait autant déplu. Aucune extravagance ne lui avait encore valu le haro public. On en était toujours au repli sur soi, à l'absence aux autres, au désir de se faire oublier, surtout au lycée, où les résultats devenaient aussi ternes que le personnage. En voulant voir, on aurait vu notre timide créature, évitant la bousculade de la sortie, descendre l'escalier du grand lycée, se diriger à pied par économie dans la direction du square Bresson et, imperméable à l'émoi de la ville anxieuse et pacifiée, prendre la rue Babeloued, traverser la place du gouvernement, filer rue Badazoun, parvenir enfin au djinn, où il y avait des gâteaux au miel bon marché. En y entrant, je passais rapidement la main dans mes cheveux pour les rendre plus bouffants. Je m'installais pour goûter. Par instants, je lançais dans le miroir vitreux des regards brefs, plus inquiet que satisfait, et retourner aussitôt dans mon monde pour éviter une trop longue immersion en milieu contraire. Voilà l'image du moi que j'étais en ce temps-là. C'était une écorce encombrante et qu'il me fallait nier, à moi-même, car je connaissais trop bien les contours de mon moi réel et caché pour tolérer ma navrante apparence, et aux autres, que j'accusais secrètement de n'avoir pas Dieu pour voir. La vie qu'il m'accordait, je la refusais. Mais comment imposer celle qui foisonnait en moi? Le temps pressait. À 16 ans, on ne peut plus attendre indéfiniment. Il faut vivre ou mourir. L'oppression parfois me coupait le souffle.
Marie-Pierre, fine, blonde, nous reçoit dans la jolie maison d'une banlieue où la verdure a encore ses droits. Première histoire, celle de la publication de son manuscrit.
C'est un livre qui a été fait il y a 20 ans. La première fois, j'ai dû faire au moins 10 exemplaires de mon manuscrit, c'est-à-dire pas mal. Et je les envoyais un peu au hasard. Et puis il y a deux personnes qui m'ont écrit personnellement. Jacques Brenner a immédiatement compris le sujet du livre. Avec Georges Pirouet, c'était complètement différent. Georges Pirouet trouvait que dans mon livre, il y avait un mystère. Et il a immédiatement fait le rapprochement, non pas sur le style, non pas naturellement toutes ces choses-là, mais il a fait un rapprochement avec Armance, de Stendhal.
Ce qui est très flatteur.
Naturellement, c'est extrêmement flatteur. C'est pour ça que je m'empresse de dire que ce n'est pas du tout pour le style et toutes les qualités de Stendhal, mais c'est pour une sorte de technique où on parle d'un problème qu'on a, d'une difficulté qu'on rencontre, et sans dire jamais laquelle. C'est lui qui m'a fait connaître Françoise Verny. Alors, Françoise Verny, nous nous sommes vus 2 ou 3 fois, sans plus, je ne me souviens pas, mais nous avons longuement parlé. Et elle m'a dit ce qu'elle attendait exactement de moi. Et j'ai commencé à travailler. Bon, il était question de supprimer une partie qui est supprimée d'ailleurs dans le livre que j'ai sorti récemment. C'était une partie qui se passait à Paris. Donc elle m'avait dit, non, il faut que ça se termine à Alger, au départ pour Paris. Bon, ça, je trouvais que c'était très bien. Et je l'ai tout de suite fait. Mais corriger certains tics que j'avais en écrivant, que j'ai corrigé. Et quand j'ai fait cette correction, Françoise Verny a quitté de Noël. Et ça avait fait un peu de bruit d'ailleurs, elle a quitté. Et moi-même, je commençais à penser qu'il fallait que j'écrive différemment, que j'écrive autre chose, que je conçoive mon roman différemment. Donc je suis repartie dans mon écriture et puis je ne m'en suis pas trop occupée. C'est là que, vous savez, quand on reste 20 ans à écrire seul dans son sous-sol, parce que j'écris dans mon sous-sol, j'ai mon bureau dans mon sous-sol.
À ses heures perdues, puisque à cette époque, vous étiez professeur de lettres.
Oui, j'étais professeur de lettres. À Garges-lès-Gonesse, et bon, à mes heures perdues, enfin, c'est-à-dire à mes heures trouvées, si j'ose employer ce langage, je me suis mise à écrire, et on se sent quelquefois très seul. Et on a besoin d'un regard de quelqu'un. C'est comme ça que je suis tombée sur cette association, qui s'appelle une association d'écrivains de langue française, je ne sais plus trop. Et puis, je représentais plusieurs manuscrits, parce que j'écris des nouvelles, etc. Et ils m'ont donné leur avis. Alors, quand pour ce manuscrit, ils m'ont dit oui, etc., j'ai dit, bon, ben, je vais essayer de le proposer. Si bien qu'on m'a dit, donnez votre manuscrit à Madame Tell, qui va sans doute s'en occuper. En ce moment, elle est à la recherche d'un très bon manuscrit, vous imaginez à peu près. J'ai donné mon manuscrit à cette dame, et qui m'a dit « mais oui, je crois, etc. »
Donc là, maintenant, l'ouvrage est dans les librairies, et puis tu t'aperçois que, en fait, on juge un livre d'après la maison d'édition, et que si la maison d'édition est très peu connue, le livre a peu de chances d'être entendu.
Ben, le livre n'a pratiquement aucune chance.
Nous allons essayer de réparer cette injustice.
En 150 pages, il n'y a aucun accord ni au masculin ni au féminin. Et donc c'était en 84, c'est il y a 20 ans. Et quand j'ai découvert le roman d'Anne Garetta, qui a sorti en en 87. Tout un roman qui s'appelle Sphinx. J'avais dévoré ce roman et je dois dire qu'il m'avait d'une certaine manière complètement démoralisée parce que je m'étais cru originale, c'est bête à dire, mais je m'étais cru originale d'avoir fait tout ce long parcours en préservant une sorte de neutre. Je me dis, bon, ben, au fond, c'est fait, ça n'est plus à faire.
Dans les grandes réticences qu'avaient les éditeurs par rapport à ce qui était un manuscrit à l'époque, c'était justement le fait que le personnage principal n'était pas sexué.
C'est-à-dire qu'on m'a dit, et on me répète encore aujourd'hui, on m'a dit que le lecteur a besoin d'être au courant. D'abord, pour que le transfert s'opère, il faut dire aux gens, voilà qui je suis, comment ça se passe, etc. C'était à peu près à cette époque-là, moi je travaillais encore, j'enseignais, et bon, il n'était pas question que j'édite quelque chose comme ça aussi. Il y a un âge où on peut dire les choses, à mon âge maintenant je peux dire n'importe quoi de moi, ça m'est égal. Disons qu'en ce qui me concerne, je n'ai rien à prouver, ce que j'aimerais prouver, ce sont des talents littéraires, mais je n'ai rien à prouver sur un autre plan, donc ça m'est égal.
Marie-Pierre Isère, J'inventais ma vie. Il y avait à cette époque à Borj Menayel un jeune musulman nommé Mahdi, préparateur en pharmacie, qui était fou de Sabine, une petite catholique, à qui il n'aurait pas osé parler de son amour. Espérer n'était pas raisonnable. Aussi n'espéra-t-il pas. Il alla conter sa peine au courrier du cœur d'un magazine parisien qui publia sa lettre et sa photo. C'est ainsi que le scandale avait éclaté. C'était, chez les Français les plus compatissants, un éclat de rire de dérision. Chez les autres, un concert d'indignation et jusqu'aux menaces. Sans doute même une petite bande de fiers à bras aurait-il fait passer à Mahdi le goût des amours malheureuses si Sabine n'avait pas été de ces filles qui délaissaient, comme ma cousine Julie, les jeunes Français du village, au bénéfice de ceux du contingent métropolitain. Cette affaire avait tout d'abord été à mes yeux une répétition de celle de Miloud Miloussi, quoiqu'en plus dramatique. Mais un mot d'Armand m'avait durement fait percevoir un lien entre cet amour contre nature sociale et notre équivoque liaison. Ce que Mahdi a fait est honteux. Il faut suivre la mode ou quitter le pays. Il y a des sentiments qu'il ne faut pas avouer. Son amour, même s'il est sincère, il n'aurait jamais dû en parler, pas même se l'avouer à lui-même. Je l'avais pris pour moi. Le ton, le regard avaient été plus durs que les mots. Armand, toutefois, n'était pas seul à juger sévèrement Mahdi. Le docteur Sellac avait détourné la conversation. Quant au cadis Najek, il avait parlé devant ma mère. Il prétendait que le faux pas de Mahdi humiliait tous les musulmans. Tout circonspect qu'il était en général, il avait ajouté d'un ton sévère, appuyé d'un geste de prédicateur, « C'est un jeune déluré, Madame Grappé, un petit mal appris, qui ne sait pas rester à sa place. Il a besoin d'une bonne leçon. » Et comme ma mère joignait sa voix aux protestations de Madame Grappé, il ajouta « Parfaitement, mesdames, je maintiens, restez à sa place. Le tout, bien sûr, c'est de connaître sa place et de savoir l'occuper. » L'histoire de Mahdi finit mal. Il continua de travailler quelques semaines à la pharmacie, puis se taira chez lui. On raconta qu'il avait reçu du FLN, l'organisation rebelle, des ordres précis. Il avait fait rire les Français aux dépens des Arabes. Il devait, pour laver cet affront, faire mourir au plus vite trois rieurs pris au hasard, tâche facile dans son métier. À Borj Menayel, le pharmacien chassa sans discrétion, dit-on, Mahdi le scandaleux. Quelque temps plus tard, Mahdi fut intégré dans les harkis. Il fut assassiné aussitôt après, en pleine rue, à grands coups de coutelas. Bien des gens furent bouleversés qui, à cause de l'horreur et de la proximité du meurtre, se sentirent en danger. D'autres se sentirent rassurés. Oh, tant qu'ils se tuent entre eux. Et les communautés, terme alors ignoré, se séparèrent un peu plus.
Il y a dans ce roman une sorte de mystère non élucidé, surtout pour un lecteur rapide. Et j'avais multiplié certains indices, malgré tout. J'avais multiplié certains indices pour éclaircir la situation. J'avais aussi, par deux fois dans le roman, expliqué par le regard de ma mère des masculins. Par exemple, je dis un enfant et je dis un adolescent, mais ça, c'est vu par ma mère. Et j'avais aussi expliqué mon propre problème, si j'ose dire. C'est par un regard vu par le personnage lui-même, hein, quand je dis mon problème, il s'agit du personnage, en fait. C'est un regard porté dans la glace, dans le miroir. Alors, le personnage se regarde et ne se voit pas tout de suite, j'y insiste beaucoup. Le personnage ne se voit pas tout de suite, il a besoin d'approfondir son regard dans la glace et pour se voir non plus en pyjama, mais en robe saillante au milieu d'admirateurs, tout ce que j'écris dans le livre. Donc cela, il me semblait que c'était déjà quelque chose d'éclaircissant. Il y avait aussi toutes les allusions que je fais, par exemple, enfin, je vais en prendre une, lorsque Armand parle des amours interdites, eh bien, je le prends pour moi. Et les amours interdites dont il parlait, c'était les amours entre chrétiens et musulmans, qui amènent la mort du préparateur en pharmacie. Mais en réalité, il le dit pour moi, je comprends très bien, eh bien, les amours interdites...
C'est les amours entre certains chrétiens.
Voilà. Qui sont d'ailleurs interdites, je crois, un petit peu dans toutes les religions. Et je le prends pour moi. Donc ces choses-là éclaircissent mon attachement au milieu homosexuel d'Alger, dont je me détache peu à peu, mais auquel je reste quand même très attachée. L'accueil que me fait Grosse Mouche et comment Grosse Mouche me parle, tout cela, me semblait-il, était très clair.
C'est du domaine de la construction, proprement dit, ça encore ?
Ah oui, ça c'est de la construction, parce qu'il faut, je tenais absolument à éclaircir le mystère par ces détails-là. Parce qu'on va passer brutalement, et ça va être le silence total, on va passer brutalement du personnage qui est un peu ambivalent, aux yeux des autres, enfin, aux yeux des lecteurs, me semble-t-il, à la solution. Le personnage se donne un objectif au début du roman. Cet objectif, apparemment, c'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire la transformation, c'est-à-dire, disons-le franchement, la féminisation totale. Cet objectif semble atteint aux deux tiers du roman. Puisque d'ailleurs, la narratrice le dit, « Si ma vie était un conte, ici prendrait fin le récit. » J'ai pris soin de dire ça.
L'intrigue se poursuit après que le personnage ait définitivement adopté un genre féminin.
Le roman se poursuit avec les amours de la narratrice et de Serge, et ces amours qui tournent mal. C'est vrai que c'est un roman d'amour un peu classique, en ce sens qu'il y a une sorte de fascination, puis une sorte d'abandon de l'un par l'autre, puis un retournement brutal, et c'est la fin. Mais ce petit roman d'amour était la poursuite de ce que j'avais écrit auparavant, parce que toute cette ellipse narrative qui part de juste après la scène où la mère voit son adolescent, son fils en quelque sorte, dans les bras de Serge, et où la narratrice, elle, se voit tout autre chose, tout de suite après, à la fin, vers la fin de la troisième partie, on a un saut de d'un temps assez large, mais qui paraît immédiat dans le roman. Je dis, ma mère était satisfaite, j'étais heureuse, j'étais libérée, je respirais les parfums enivrants de cette Algérie en fête, etc. Et qui correspond, l'ellipse du roman, en même temps, au rêve des pieds noirs de l'Algérie française. Tout le monde y croit. Et moi, je crois aussi, mais à autre chose en même temps. Je crois surtout à moi et je crois surtout à mon amour.
Marie-Pierre Isser, le roman s'articule autour de deux microcosmes très éloignés l'un de l'autre. Le premier, c'est une bourgade de Haute-Kabylie où pieds noirs et musulmans se mélangent.
C'est-à-dire qu'il y a à Borj-Menayel, il y a les pieds noirs à Borj-Menayel, qui ne sont pas plus de 2000 à Borj-Menayel. Borj-Menayel était une bourgade assez importante. Et naturellement, les Français ou les Arabes y habitent là, d'une manière sans distinction, sans aucune distinction. Le cadi habite à côté de chez nous. Nous avons un mur mitoyen avec le cadi. Et puis, il vit à sa façon, nous à la nôtre. Tous les gens qui ont les moyens d'avoir une maison habitent là. Et puis, tous les Français habitent dans ce patelin. Je suis élevée au milieu des Arabes. Notre voisin, il marie ses filles à sa façon. Il les enferme quand elles sont pubères. Et le cadi, et je crois qu'il ne peut pas faire autrement. Le docteur même s'apprête à faire à peu près la même chose parce que, comme disait ma mère, ça serait faire un scandale, ça serait pas faire un progrès, ça serait faire un scandale, mais un scandale vide. Donc ils sont obligés de faire comme ça parce que il y a la société arabe qui le veut. Donc il y a là, ici, à Borj-Menayel, des gens qui sont mêlés, mais qui ne se reçoivent pas les uns chez les autres. Ça serait impossible. Mais nous vivons ensemble, tout le monde vit à sa façon.
Il y a une petite chose, et on a aussi l'impression que la situation politique crispe un repli sur les coutumes.
Ah oui, bien sûr.
Et c'est là où on voit ce fameux docteur Sela, qui ne rêve que d'une seule chose, en fait, c'est que sa fille parte à Alger pour faire des études et qui est obligé...
Et qui est obligé de la garder près de lui parce que ça n'est pas possible. Il faudrait qu'il aille s'installer à Alger et qu'à Alger, elle se perde dans l'anonymat, il se perde dans
et
l'anonymat.
Et là, on sent que c'est l'ambiance politique
naturellement
qui va crisper les gens sur un repli sur la coutume.
Oui, parce qu'on demande constamment aux gens... Il arrive un moment où on demande aux gens de prendre parti. Vous êtes pour ou vous êtes contre. Voilà. Et si on n'est pas pour, on est contre. Alors, ça n'est pas pratique. Ce pauvre docteur est entre les deux. Il aimerait bien un modernisme, mais il ne peut pas non plus renoncer à être lui-même. D'ailleurs, lui, il a épousé une femme qui reste enfermée, qui a été élevée comme ça, qui reste enfermée, etc. Il est impossible, il ferait peut-être bien évoluer sa famille, mais doucement, doucement, il ne peut pas être en rupture avec tout ce qui l'a précédé, avec tout ce qui l'entoure. De toute façon, il ne serait pas intégré parmi les Français d'une manière parfaite. Donc, s'il ne veut pas être complètement esselé et isolé, il faut qu'il soit encore en contact étroit avec sa famille. Pour être en contact étroit avec sa famille, il ne doit en aucun cas se débarrasser de ses coutumes. C'est impossible. Il pourrait les faire évoluer lentement, mais c'est tout.
Marie-Pierre Isser, J'inventais ma vie. Depuis deux jours, tout Borj-Menayel en parlait. Madame Alvarez avait trouvé écrit sur sa porte « La valise ou le cercueil », avec dessin à l'appui. La pauvre vieille était peu encline à risquer sa vie pour défendre les biens de son gendre. Elle eût fait, comme moi, volontiers ses bagages. Monsieur Régal ne l'entendait pas de cette oreille. Il voulait découvrir le coupable. Ce ne pouvait être que Slimane, le jardinier. Pour Madame Grappé, c'était absurde. Elle connaissait Slimane depuis toujours. S'il se savait seulement soupçonné, il se sentirait déjà condamné, ne croirait plus en la justice et risquait de passer dans l'autre camp. Monsieur Régal promit de tenir compte du conseil et de se montrer libéral. La présence d'un seul de nos voisins avait le pouvoir de nous tranquilliser. C'était le cadis Najek, dont ma mère était persuadée, à cause de réflexions qu'il faisait parfois, qui se répétaient et se commentaient, qu'il était un sympathisant de la rébellion. Lui avait l'art et la manière de nous parler. Il personnifiait à nos yeux le musulman traditionnel. C'était un homme intègre, long et flexible dans ses vêtements blancs et flottants, la tête mince et amincie par une courte barbe grise coupée en pointe au menton, remontant le long des joues jusqu'au turban blanc, encadrant un visage mat, entièrement éclairé du regard intense de ses yeux noirs. Les mains étaient grisâtres, longues, fines et sages. Il inspirait le respect et le recevait. Sa voix surprenait d'abord, tant elle était éraillée, mais s'intégrait au personnage et semblait révéler des déchirures profondes. J'ai dit au cadi que cette affaire de valise et de cercueil nous avait fait bien peur. Il m'a répondu qu'il me répétait ce qu'il m'avait toujours dit, « Nous ne risquons rien. S'il arrive qu'en pleine nuit, à notre porte, un danger se précise, nous n'avons qu'à frapper au mur, il comprendra tout de suite. » Mais il est sûr qu'il n'arrivera à rien. En fait, il a l'air de reconnaître qu'il aurait de l'autorité sur quelque terroriste qui voudrait forcer notre porte et nous trancher la gorge. Si la chose se présentait et qu'il nous sauve la vie, il aurait du mérite. Il s'exposerait. On dirait que si les bandits lui ont obéi, c'est qu'il est leur chef. Que s'il a épargné nos vies, il en a sacrifié bien d'autres. Et de là, tout ce que tu peux supposer.
Alors, il y a un personnage qui fait l'ultime transgression, c'est-à-dire il part en France et là, il épouse une Française.
C'est un personnage qui était un ancien apprenti chez mon père, qui apprenait la mécanique dans le garage de mon père. Et en effet, il ne peut plus supporter l'atmosphère qui règne là. Lui, il veut partir, il veut voir la France, il part en France. Il s'installe un certain temps en France, il épouse une fille selon son cœur. Et puis il est marié, il vit en France et il attend des vacances pour retourner sans sa femme, aller embrasser sa mère et revoir le pays. Et le père l'attend avec sa canne sur le pas de la porte et lui interdit l'entrée de la maison et le maudit. Il lui interdit de voir sa mère, tout ça. Donc il retourne, il passe chez nous. Et c'est lui qui me dit, en venant dire bonjour, si voilà. Tu veux vivre ta vie, il faut quitter le pays, quoi. Tu dois partir, ne reste pas ici. Mais il ne me le dit pas avec le sens que j'entends, bien entendu. Mais c'est ce qu'il me dit. Quand je voyais toutes ces difficultés qui s'accumulaient, je disais, bon, par exemple, oui, il faut pas créer le scandale, il faut essayer de fuir, ou toutes ces choses-là, j'ai essayé de me les dire. Tous les personnages, au fait, tous les problèmes que j'ai évoqués au fur et à mesure, je les ai évoqués pour les ramener à moi.
Mais il y a aussi une façon de bien montrer que l'intolérance n'est pas que d'un seul côté, sur les Arabes, comme on dit dans le roman, avec leurs coutumes dépassées. On s'aperçoit que du côté des pieds noirs, comme on dit dans le roman, il y a aussi toutes sortes de coutumes et de tabous.
Mais naturellement, la société pieds noirs de l'époque est une société qui n'a rien à voir avec les Français d'aujourd'hui. Le qu'en dira-t-on joue un rôle énorme. D'abord, je raconte l'histoire des filles qui dansent avec les militaires et qui sont très mal vues.
Avec les militaires du contingent.
Pour s'en tenir aux filles et aux jeunes filles qui sont là, on soupçonne quelquefois. Parce qu'il y a la guerre à qui est le plus français parmi les pieds noirs. Je me souviens, ma mère qui est un nom italien, ma mère me disait, nous sommes 6 filles dans la famille et on se surveillait pour savoir laquelle aurait un nom français. Moi, je fais partie de celles qui ont un nom français. Et elle était contente. Il y en a eu 3 qui ont eu un nom français et 3 qui ont gardé un nom en I. Mais reste que les jeunes filles sont toujours soupçonnées, peut-être pas toujours à tort, d'essayer d'accrocher un jeune militaire et de se faire épouser par un Français de France. Et peut-être d'aller vivre en France. C'est un prestige extraordinaire d'aller en France. Les gens qui reviennent de vacances, qui sont allés passer leurs vacances en France, en tirent une vanité extraordinaire. Nous n'allions pas en France, bien entendu, mais ils sont allés en France en parlant des gens comme des instituteurs qui avaient le voyage payé, par exemple. Bien sûr.
هني في بلادي دافي وجيت الجد يما تزف زافي زلطت تبقلت تعرى وكتافي الشاهو صحافية من هو يرفدك في الغربة غير لي لاقيك بخشبة معاه الحقك لا ضربة فلسه صالة واتشية كنت مهني في بلادي دافي وجيت الجد يما تزف زافي زلطت تبقلت تعرى وكتافي الشاهو صحافية شوماج اليوم لصقني ست سناسل رابطني نصبح نجري وندني ونعشيكي ما هي كنت مهني في بلادي دافي جيت الجد يما تزف زافي زلطت تبقلت تعرى وكتافي الشاهو صحافية وين دخان الوزنات في جيبي بالباكيات اليوم غير المنقوات حرقوا نفخوا شواربية كنت مهني في بلادي دافي وجيت الجد يما تزف زافي زلطت تبقلت تعرى وكتافي الشاهو صحافية
Le deuxième microcosme observé dans le roman, c'est ce petit monde des pieds-noirs gays d'Alger, avec notamment Albert Canson, le journaliste influent. C'est un personnage à clé.
Je me suis quand même un peu inspirée d'Alain de Sérigny, mais ce n'est pas Alain de Sérigny, je le dis tout de suite.
Qui travaillait dans quel journal ?
L'Écho d'Alger. Mais j'ai connu un journaliste qui a travaillé avec Alain de Sérigny, d'ailleurs, qui était un ami. Et donc, c'est lui qui m'a servi entièrement de modèle, déjà pour le physique et surtout pour les conversations que nous avons eues, qui s'appelait Alexandre. Je ne dirai pas son nom de famille, mais...
Alors, Albert vit une vie double complète. Alors... c'est le monsieur respectable... quand il est dans le journal, et puis tout d'un coup, il arrive dans certains milieux, et là...
Il débande un peu. Il se laisse un peu aller, oui. Alors, il parle de lui au féminin, il dit mon mari, en parlant d'Ali Alain. Mais autrement, c'est vrai que c'est un personnage respecté, partout où il arrive, il est fêté, c'est un intellectuel.
Et il est aussi très soucieux de sa respectabilité.
Ah oui.
Et il trouve que...
ne me fait pas remarquer.
Le personnage du jeu commence... à être infréquentable.
Infréquentable, ta mèche est dans ta mèche, dans l'œil, mais tu pourrais te tenir, tu serais présentable si tu le voulais, tu fais exprès de te faire remarquer, etc. Il n'arrête pas d'assaillir mon personnage.
C'est une espèce de Cambacérès.
Oui. Le pouvoir d'Albert Camson est grand en Algérie. Il est très écouté. Et lorsque le général de Gaulle fait son discours sur l'autodétermination de l'Algérie, Albert Camson fait un article le lendemain et qui s'appelle « C'est possible ou c'est faisable ». Je ne sais pas, ça correspond à peu près à une réalité. J'ai à peine transformé les choses. Et il dit oui, il faut ce référendum. Au moins, ça prouvera à la terre entière que le peuple d'Algérie est uni pour toujours à la terre de France. Et il me dit, mais enfin, tu ne penses qu'à toi, regarde-toi dans quel état tu es, etc. Et lui perd ce côté homosexuel si marqué qu'il a. Il a retroussé ses manches, chose que je ne lui ai jamais vu faire. Il va et il attrape la poignée de la fenêtre et il l'attrape à pleine main, lui que j'ai toujours vu prendre la poignée du bout des doigts et faire comme ça quand il tournait. Il l'attrape à pleine main et il me dit « Mais écoute, écoute !» Et on entend le peuple crier « Vive Massue !» Le peuple des pieds noirs qui est dans la rue crier « Vive Massue, vive Massue !» Et lui change avec ça. Il oublie toutes ses précautions qu'il a avec lui-même d'habitude parce que je lui fais les ongles, je lui fais les cheveux. Je suis de ces petits personnages qui vont faire des petites choses utiles autour des gens importants.
Et il évite de vous présenter son bien-aimé, parce que sans doute il a une petite angoisse.
Alors peut-être, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais connu cet Ali Alain que vers la fin lorsqu'on fait ses repas du dimanche. Et je les ai connus chez Grosse Mouche et c'est tout.
Alger recommençait à s'agiter. On craignait que la révolution n'atteigne pas son but. La rébellion, anesthésiée à l'intérieur, avait repris vie à l'extérieur. Elle avait constitué un gouvernement en exil dont on s'était gaussé, mais qui avait acquis la considération des blocs communistes et anglo-saxons. Alors on rit jaune et bruyamment. Au chasse-mouche, le vin aidant, le ton montait. Le patron craignait les éclats. Pour faire baisser la tension, il faisait irruption avec une nappe sur la tête, une autre autour de la ceinture, et se lançait dans les contorsions de sa parodie de danse arabe. « Dansi, 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 chouïa !» Les serveurs tapaient dans les mains et chantaient aussi. Quelques clients suivaient.
« Dansi, 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 chouïa, ferrette basse fantasia !»
Cet intermède grotesque, Ferhat Abbas était président du gouvernement rebelle en exil, détendait en effet. Un bon gros rire rappelait qu'on fabulait autour d'un danger inexistant. Il n'y avait plus qu'un effort à faire pour atteindre la paix.
Il est tiré d'un personnage réel, cette grosse mouche.
Je n'ose pas le dire, mais oui. Oui, il est tiré d'un personnage réel, mais je ne peux pas trop donner de clés parce que ça serait un peu criant. En plus, ça vexerait peut-être certaines personnes. Je ne sais pas ce que ce personnage...
Mais c'était un tenancier de bistrot, c'était...
Oui, oui. De bistrot, mieux que ça.
De cabaret?
Oui, mais c'est pas une boîte comme ça, hein. C'est un restaurant chic. C'est...
Mais où la moitié de la clientèle est comme ça?
Où des clients sont comme ça, oui, oui. C'est-à-dire que je mélange un peu les époques. À mon époque, où j'ai vraiment vécu, non. Peut-être que pendant la guerre, tout un milieu homosexuel a beaucoup, beaucoup relevé le ton et curieusement. En tout cas, je peux dire que tout ce milieu homo est devenu un milieu assez folle et assez criant vers la fin de la guerre. Grosse Mouche se donne pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est une grosse Caroline, disons, qui fait des mots d'esprit que tout le monde connaît, qui sont archi connus, mais ça fait rien, qui font rire.
Et qui attire la dérision.
Et qui attire, oui, l'autodérision. Il pratique l'autodérision, il se moque de lui-même, etc. Et puis, il a il est un peu caricatural. Parce que qu'est-ce qu'il me demande quand il voit que c'est moi qui arrangeais les cheveux d'Albert Canson? Il dit, oh, ben, tu vas me faire à moi aussi les cheveux, c'est très important, tu vas me faire des décolorations, à moi aussi tu feras les mains et même les pieds, etc. Et quand il me demande de le décolorer, ah non, non, ne touche pas mes cheveux, non, non, pas les cheveux, c'est très mauvais de les décolorer, ça les fait tomber, déjà que j'en ai pas assez. Il est très gros, hein, il doit faire 120 kilos, il est grand, il doit faire 1m85, il doit faire 120 kilos, et il est couvert de poils. Il est entièrement couvert de poils. Et il me dit, tu vas me il a des poils très longs et très frisés sur le buste, mais tu vas me décolorer les poils, parce que ça serait quand même beaucoup plus féminin de me promener sur la plage et à la piscine avec en blonde. Voilà, je serai en blonde. Et je décolore donc tout ça. Et il se promène à la piscine et partout avec ses poils blonds. Et il fait sa folle, quoi. Mais c'est vrai qu'il est en quelque sorte terre à terre, malgré toutes ses folies, tout ce qu'il raconte. Il fait des pitreries dans son bar pour amuser les gens.
Il fait des pitreries politiques.
Il fait des pitreries.
Il y a sa petite danse.
Il fait des
sur l'air de Trabaja la Mouquère.
Où
oui.
Il dit Ferrat Tabas, Fantasia. Quand ils créent leur premier gouvernement, les Algériens créent leur premier gouvernement en exil. C'est Ferrat Tabas qui est le premier président de la République en exil. Et alors, ils se moquent de Ferrat Tabas. Ben, les pieds noirs applaudissent à tout rond.
Et ensuite, il y a De Gaulle.
Après, c'est la grande Zora. La grande Zora, Fantasia, etc. Et la grande Zora, ben, comme chacun sait, c'est le général.
Comme chacun sait, moi, je l'ai appris en lisant le livre.
Ah bon ? Non, c'est, je n'ai rien inventé. Ça,
c'était commun.
Ah oui, ça, oui, on disait la grande Zora. La grande Zora. Ben, ça se retrouve dans beaucoup de livres aussi. Alors ça, je ne l'ai pas appris par les livres, moi. C'est comme ça qu'on disait dans ma famille.
Nos cœurs croyaient à tous ces mirages, nos cœurs rêvaient des innocents. Notre soleil, le ciel et la plage, souvenirs de nos anciens printemps. Cela ressemble aux belles qui s'estompe bien vite avec le temps. Cela ressemble à tous ces voyages que l'on fait en rêve seulement. Rêvons aux temps heureux, rêvons encore un peu, nos cœurs gardent toujours l'espoir de très beaux jours. Rêvons aux temps heureux, rêvons encore un peu, nos cœurs gardent toujours l'espoir d'autres beaux jours.
Heureusement, il y avait Grosse Mouche. Avec sa bouche en cœur et ses yeux globuleux, ses manières d'étourdie, ses regards d'almée qui bondissaient régulièrement sur une proie improbable, ses grosses mains potelées qui faisaient des grâces au-dessus de son arrogante bedaine, il avait l'air d'un gros moine bon vivant, auquel il ne fallait pas se fier. Depuis un an, son aide m'avait été profitable. Il n'était pas toujours satisfait de moi, car je n'avais pas l'art de la réplique. Et si j'avais mal relancé la balle, il s'écriait « Quelle nouille !» en levant les yeux au ciel. Là s'arrêtaient ses reproches. Il ne m'humiliait pas en public, comme il aurait fait s'il avait eu l'idée de me chasser. Le lendemain, il me faisait répéter mon rôle pour que je l'aie mieux en bouche. Il finit par se lasser. Mais je devais pourtant lui convenir, car il m'utilisa autrement. Comme il avait découvert qu'il était deux fois plus âgé que moi, il m'appelait « sa fille ». Quelle honte si ma mère avait appris que je me livrais à ses bouffonneries. « Regardez comme elle est belle, » disait-il au client. « Mais oui, je suis sa mère. J'ai assez souffert pour la mettre au monde. D'ailleurs, ça se voit, on se ressemble assez. » Tout le monde riait. Sauf Grosse Mouche lui-même, qui, après une pause, prenait un air affairé et me disait « Tiens ma crotte, serre-nous la lisette. » Les rires redoublaient. Je riais aussi. Les gags s'enchaînaient pendant un bon moment. Les clients étaient contents. Beaucoup d'entre eux étaient pris à partie et ils avaient l'air de le trouver bon.
J'avais pris comme de l'importance dans la vie de Grosse Mouche. Il me disait maintenant « Tu as remarqué que je ne te mets plus en boîte. Tu es devenu trop bien. » Les clients ne comprenaient plus. Ils me croyaient peut-être jalouse. C'est que vraiment, tu es devenue pas mal. Ne proteste pas. D'ailleurs, je vais te dire une chose. À ton âge, j'étais exactement ton genre. Je pourrais être aujourd'hui comme Asphodel. Tu ne connais pas Asphodel. Ha ! En chair et en os, c'est encore beaucoup mieux que cette photo du bar qu'elle m'a dédicacée quand elle est venue dîner ou plutôt faire son scandale. C'était quelque chose. Il faut que tu connaisses Asphodel. Quand la paix sera revenue, je fermerai tout le mois d'août. Cet été 1959, le chasse-mouche ne fermait pas et mes vacances étaient prévues qu'en janvier suivant. Et on partira toutes les deux à Paris. Il fait moins chaud qu'ici. On ira voir Asphodel à la Voie lactée. Tout le spectacle est formidable. Et qu'est-ce que tu crois? Je m'y vois, moi. La taille fine, des panaches d'autruche sur la tête, sur les hanches.
شوف قلبي يعمل تيك تيك تاك نحب نعشق بزينك يا محمر كي شوف قلبي يعمل تيك تيك تاك نحب نعشق بزينك يا محمر هبلت هبلتيني دخت وقتيني في بحر عشقك غرقتيني تيكا تيكا تيك 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 تاك نحب نعشق بزينك يا محمر
ماري بيير إيسير. En même temps, Grosse Mouche peut avoir de temps en temps des phrases d'une lucidité foudroyante. C'est-à-dire que quand Albe débarque à la boîte avec son amant arabe,
avec Ali Alain, il dit « Regarde-moi ça, la Albe qui vient et qui m'amène ici un bico. Il va me faire perdre ma clientèle. Les petits bicots, dit-il, moi j'en fais des amants, pas des clients. Parce qu'il ne faut pas d'arabes là, quoi. Qu'est-ce qu'on va leur servir? Et puis il y a du porc, et puis de toute façon, on ne veut pas d'arabes. Donc...
Alors c'est vraiment un personnage curieux parce que c'est un personnage qui parle presque sabir, enfin il parle patouette,
oui, avec beaucoup de... Il connaît l'arabe algérien, oui il connaît l'arabe algérien, mais en fait, alors lui est absolument persuadé que bon, les arabes, ça sert à... Bon, il y a quelques arabes très bien, et puis les arabes c'est pour faire des domestiques, c'est pour faire des amants, bon on les paye et puis c'est tout. Oui, et... Il est nature, si je veux dire, de ce côté-là. Il dissimule rien, il parle franc et net.
Il parle franc et net, et en même temps, lui qui est quand même plus ou moins discriminé comme personnage, il va à son tour discriminer les autres.
Ah, ben bien, comme toujours. Comme toujours.
Curieusement.
Mais moins chez lui, dans le privé, où l'ami d'Albe vient, Ali, il n'a jamais trouvé à redire à ça. Que dans un restaurant, car dans un restaurant, il a toujours l'arrière-pensée, les pieds noirs, s'il voit des Arabes qui viennent manger au restaurant, peut-être qu'ils vont plus vouloir venir chez moi. Voilà à peu près ce qu'il pense.
C'est le seul personnage qui pressent l'avenir de Divine.
Ah oui.
Qui pressent que Divine n'est pas du ressort du grotesque, mais que Divine a une autre vie à vivre.
Voilà. Mais, quand même... Bon, ça me touche
avec
pas.
Avec un peu de jalousie, peut-être.
Il y a une sorte de projection, et tout ça est mêlé à une sorte de regret qui est un petit peu exprimé, mais qui n'est peut-être pas très profond, qui n'est peut-être pas très sincère, parce qu'il me dit toujours « Et quoi ?» Il a toujours ce mot « Et quoi ?» Je m'y vois, moi, avec des plumes, etc., et chantant sur les scènes de cabaret, Paris, sera toujours Paris, etc. Il le voit, il le fait, il s'imagine, il s'y voit. Mais il m'y voit aussi. Et, d'une certaine manière, il m'aide. d'une manière certaine, il m'aide, il me fait connaître des gens, il me fait connaître des produits, j'allais dire, et il est très efficace.
Marie-Pierre Isère, Serge, votre prince charmant, devient l'homme de tous les dangers.
C'est avec Serge que j'ai vraiment mes émois les plus profonds.
C'est un personnage terrifiant. C'est vraiment...
C'est un personnage...
C'est la part maudite. C'est-à-dire qu'au début, c'est le prince charmant et de petit à petit, ce personnage va se muer en monstre fou.
C'est un personnage louche. D'abord, il fait partie de ces gens qui sont habillés en parachutistes, mais qui ne sont pas parachutistes.
Alors,
ça existe.
Lui est métropolitain, encore une fois.
Je pense. Alors, naturellement, je suis très amoureuse de...
Et lui est très amoureux de la féminité de Divine.
Alors, ça commence quand même d'une certaine façon. Qui rencontre-t-il ce 16 mai lorsque je descends de la place ? Il voit quelque chose comme une jeune fille timide, qui l'embrasse, qui l'amène à la gare. Et il apprend que...
Qu'il y aurait un mystère.
Qu'il y a un mystère avec les mots. Il trouve ça encore plus intéressant, mais il le place. Je sens qu'il le place autrement. Ce Serge... nous nous revoyons. Et nous nous revoyons peu à peu. Et il y a l'arrivée du général de Gaulle. Et lui est opposé absolument à de Gaulle. Et il a décidé qu'il fallait assassiner le général de Gaulle. Lorsque le général de Gaulle arrive à Alger le 4 juin, il y a des gens qui sont cachés quelque part et qui le visent et qui l'ont dans leur mire pour l'assassiner.
Ça, c'est dans la réalité.
Dans la réalité. Le jour où le général de Gaulle dit « Je vous ai compris », en fait, sa phrase est magique et je crois que les personnes qui sont censées tirer sur lui ne tirent pas parce qu'ils sont eux-mêmes envoûtés comme tous les autres pieds noirs par cette phrase magique.
Je t'ai compris !
Serge a déjà un physique étonnant. Il a une sorte de nez tout droit qui part du front comme ça et puis qui va tout droit. Et il a des yeux extrêmement pâles dont on n'arrive pas à saisir tout à fait les expressions et avec des paupières qui sont rabattues jusqu'à la pupille, jusqu'à la moitié de l'iris. On a l'impression qu'il ne voit pas très bien quelquefois. Or, il voit très bien. Quand on s'habitue à lui, on arrive à connaître ses expressions. Et Serge m'appelle son ange, la plupart du temps.
Alors, c'est un personnage réel ou c'est une affabulation romanesque ?
Il est le produit, ou plutôt la somme, de personnages différents que j'ai connus. En Algérie pour certaines scènes et en France pour d'autres, tout le long du roman. Naturellement, il prend une place énorme puisqu'il est plusieurs personnes à la fois dans mon esprit et je le fais évoluer comme quelqu'un que j'ai aimé, qui m'a assez fasciné, qui m'a révélé à moi-même, qui m'a appris beaucoup de choses, qui m'a fait m'aimer moi-même en quelque sorte à cette époque-là. Et qui a voulu me détruire, comme il veut tout détruire, tout ce qui lui résiste, tout ce qui ne se soumet pas à ses désirs et à sa volonté, il veut le détruire.
Serge m'éblouissait. et se regardait dans le miroir de mon éblouissement. Réciproquement, j'avais besoin de son regard pour me sentir être. J'étais pour lui une sorte de talisman qui agissait par sa présence, non par son activité. Je l'acceptais. J'attendais l'action d'éclat annoncé. Je me cantonnais dans ce rôle, forcément provisoire, puisque l'histoire, disait-on, s'était accélérée. Je ne voyais rien au-delà. Serge citait parfois quelques noms connus comme autant de gens qu'il côtoyait, et c'était bien. Son air de mystère, de concentration, de tension même, de volonté, de langage sobre, me le désignait comme un être supérieur, auquel j'éprouvais une sorte de volupté à me soumettre. Aussi, toutes les fois où il me demandait si j'accepterais de me dévouer pour la justice et tant d'autres beaux mots, je répondais sans hésitation. J'attendais. Je n'allais plus au lycée. J'attendais de longs moments auprès de lui. Il ne me demandait rien. La veille de la visite à Alger du général de Gaulle, dans sa chambre où je l'avais rejoint, il me saisit les bras et, braquant sur moi ses yeux pâles et mi-clos, me dit « C'est demain, ou jamais. » J'avais l'habitude des phrases mystérieuses. Elles ajoutaient à mon sentiment admiratif. Ce jour-là, plus qu'un autre, je sentis l'imminence d'un geste grave, d'une révélation capitale. Je disposais mon âme à la grandeur. Avais-je peur? Je dis que non. Pouvais-je accepter une mission importante et dangereuse? Je dis que oui. J'ignore si, comme le petit Aziz, j'aurais fait n'importe quoi, si j'aurais pu déposer une bombe chez Aïcha où les gourbis surpeuplés étaient construits serrés, moi qui ne supportais plus de voir mourir même une souris. Mais quand je dis oui, j'étais sincère. Cependant, ma réponse ne suffit pas à Serge. Je dus me mettre à genoux devant lui et jurer que j'allais garder un silence éternel sur ce que j'apprendrais. Pouvait-on compter sur mon dévouement absolu? J'avais le cœur en feu. On alla dans l'appartement d'Édouard. J'avais l'expérience de son retour inopiné, mais cette fois, c'était certain. Il était et serait absorbé par l'arrivée du général. On cacha chez lui, à son insu, un petit paquet dans un lieu sûr. Je dus jurer que je me trouverais là, à ce poste, disponible, le lendemain, quand de Gaulle ferait son discours sur le forum. Je dus encore renouveler les serments de fidélité et de silence, et ce fut tout. Serge s'en alla, sûr de moi. Il avait bien placé sa confiance.
La fin est très, très abrupte.
Oui, la fin est très abrupte parce que elle se plaque sur la réalité qui est la réalité du putsch. Et cette réalité du putsch qui est un échec pour les putschistes, comme il en fait partie, notre Serge, il devient une liberté pour moi et je m'enfuis. Et je crois qu'il fallait faire une fin abrupte parce que tout était sans solution. La solution, c'était la torture, parce qu'il s'agit de torture, la torture et la mort. Tout ça aussi, c'est une sorte de raison. La torture, la torture du personnage, oui. Mais enfin, comme j'ai toujours été extrêmement... Il y a tout un réseau de connivence entre la réalité historique que j'ai voulu décrire et la réalité du personnage. Comme il y a tout ce réseau de connivence, j'ai montré la torture sur le personnage sans l'évoquer, puisque je ne suis pas, disons, trop légitime pour parler de la torture dans l'armée à cette époque. Je ne sais pas exactement comment ça se passait.
Marie-Pierre, comment vous avez découvert Saint-Simon, qui est votre grande référence avec Proust?
Alors justement, j'ai découvert Saint-Simon par Proust. parce que Saint-Simon, c'est un des auteurs que Proust cite le plus souvent. Il cite Baudelaire, il cite Balzac, il cite d'autres auteurs, mais c'est en fait le seul auteur qu'il cite dont on n'a jamais entendu parler lorsqu'on fait ses études. Alors, ça a éveillé ma curiosité et j'ai commencé à lire des extraits. Alors, j'ai commencé à lire quelques extraits dans l'édition de 10-18. Ça m'a tellement fait rire, c'est du plus haut comique, ça m'a tellement fait rire, en particulier les portraits, c'est surtout les portraits qui sont dans les anthologies, ça m'a tellement fait rire que je me suis juré de lire Saint-Simon. Et puis, j'ai commencé à lire, mais c'est difficile d'y entrer. Et puis, alors, une année, en préparant l'agrégation, il était au programme, l'année 1715, qui est l'année de la mort du roi, si bien que je m'y suis mise et que je ne peux plus m'en séparer. C'est très dangereux d'avoir des auteurs de référence comme ça. Proust n'arrête pas d'y revenir. Parce que quand on veut écrire, quand on se pique d'écrire, disons, et qu'on a des auteurs qu'on adore, c'est plus fort que soi, on a des phrases de ces auteurs qui nous viennent à l'esprit. Et on est obligé d'écrire en luttant contre eux. Et c'est toujours très difficile. Personne n'écrit comme lui. C'est un génie à l'état pur qui écrit avec ses nerfs, qui écrit avec sa hargne. Pensons donc que quand il écrit certains portraits, ça fait peut-être quelquefois 30 ans, 40 ans qu'il n'a pas vu ces gens-là. Il a la même admiration ou la même hargne, la même volonté de les détruire que s'il vivait à cette époque. Donc, je veux donner un exemple quand même. J'ai un ami qui a lu mon livre et qui voit la phrase suivante, une toute petite phrase, que je m'en souvienne, qui est de moi. Et le cadi inspirait le respect et le recevait. Voilà, j'ai une phrase qui traîne dans mon livre. Et mon ami me dit, qui est professeur français, me dit, fais attention à cette phrase. Ça n'a pas l'air de toi, ça a l'air de venir tout droit de Saint-Simon. Je ne sais pas ce qui lui a fait dire ça, mais peut-être c'est une sorte d'imprégnation. Il se présente ici une anecdote très sage à terre, très curieuse à écrire, à qui a vu les choses d'aussi près que j'ai fait. Ce qui me détermine au second parti, c'est que le fait en gros n'a pas été ignoré et que les trônes de tous les siècles, de toutes les nations, fourmillent d'aventures pareilles. Faut-il donc le dire ? Nous avions une princesse charmante qui, par ses grâces, ses soins et des façons uniques en elle, s'était emparée du cœur et des volontés du roi, de Madame de Maintenon et de Monsieur le Duc de Bourgogne. Le mécontentement extrême, trop justement conçu contre le duc de Savoie à son père, n'avait pas apporté la plus petite altération à la tendresse du roi. Le roi qui ne lui lâchait rien, qui travaillait avec ses ministres en sa voisine.
Alors ce sens des préséances et de l'étiquette, d'une certaine manière, on le retrouve dans un autre roman que vous avez écrit, qui n'a pas été publié, que tu as bien eu la gentillesse de me prêter, qui là se passe dans le milieu des cabarets interlopes.
Quand on arrive dans les cabarets parisiens, soit qu'on arrive chez Madame Arthur,
voilà,
puis après le carrousel, on y arrive, on débute chez Madame Arthur, surtout parce qu'on ne sait pas travailler. Et puis au carrousel, il y a une revue très structurée et des gens qui eux-mêmes s'arrachent un petit peu le chignon quelquefois pour des questions de préséance. Parce qu'il y a une hiérarchie et qu'il n'est pas vedette qui veut et que celle qui a obtenu la vedette ne se laisse pas faire si facilement. Et je l'ai vécu après pendant des années. Et il faut peut-être un peu jouer des coudes, il faut faire des numéros, il faut s'imposer, il faut plaire au public, il faut plaire aux présentateurs, à ceux qui vont parler, il faut plaire à la direction, et il faut plaire aux autres directions, des casinos, à l'étranger, si vous êtes demandé, si vous n'êtes pas demandé, tout ça joue un rôle énorme, et puis votre paye en dépend, tout en dépend. C'est en petit ce qu'il y a dans Saint-Simon. Vous avez eu raison de le dire parce que, eh bien, on trouve la même mentalité. Et quand on se trouve trop bas dans l'échelle humaine, enfin, ou dans l'échelle des cabarets, ou dans l'échelle de la cour de Versailles, eh bien, on joue les coudes, on invente des espèces de solutions, on invente des traditions qui se seraient passées à tel ou tel endroit, à telle et telle époque, et on essaye de gravir comme ça les échelons.
Alors, quand on observe ce milieu à cette époque, bon, la première chose qu'on doit s'imaginer, c'est que vous êtes 5 ou 10
dans... Quand je débute ?
Oui.
On est 3.
Voilà, vous êtes 3 dans Paris.
Quand j'ai commencé au Carrousel, il y avait encore à l'ancien Carrousel des vrais travestis. Et un spectacle qui était un spectacle en quelque sorte classique. On faisait... À l'ancien Carrousel, où je ne travaillais pas à cette époque, on faisait des parodies de Racine, des parodies de Molière. On refaisait des scènes du Misanthrope, des choses très importantes, mais très françaises et très parisiennes. Quand nous avons commencé, du jour au lendemain, il y a eu un grand lessivage. Le patron a mis toutes les anciennes, en quelque sorte, à la porte. Et il a fait un spectacle uniquement avec des jeunes, coccinelles, tête d'affiche, et il y avait aussi la fameuse Tania américaine. Tania était un phénomène dans le spectacle. Et personne n'avait 20 ans encore, hein, ni Capucine, ni moi, ni Chantal. On était extrêmement, extrêmement jeunes, sans expérience, mais on nous a mis le spectacle dans la tête, on nous a pris l'une après l'autre, on nous a fait répéter des numéros, et on a monté le spectacle comme ça. Et là, le spectacle est passé de la concurrence des plumes, en quelque sorte, à la concurrence du nu. C'est-à-dire non plus celle qui aurait des plus belles plumes et les plus grandes paillettes et les plus grands strass et les robes les plus chics et les plus... Oui, ça, on l'avait encore un peu, mais c'était à celle qui aurait les plus beaux cheveux, les plus beaux yeux, le plus beau maquillage, le plus beau corps, qui saurait montrer ses seins, qui saurait placer ses jambes en scène, qui saurait faire tout ça. Donc c'était un changement de monde. Et ce nouveau monde-là, que nous avons ouvert avec Coccinelle en tête, c'était une ouverture de tout un mouvement mondial.
Tu te fous de moi quand tu me dis que tu m'aimes. Tu te fous de moi quand tu me dis des poèmes pour m'endormir au son de ta voix contre toi. Tu te fous de moi, je le sais bien, mais qu'importe, car tu es là. C'est l'amour qui me porte à bout de bras. Rien ne compte pour moi, rien que toi. Si je te dis ça, c'est pas pour changer. Si je te dis ça, c'est pas pour crâner. C'est bien réglé comme une feuille à musique. Tu te fous de moi, mais j'adore tes mensonges. Oh, tu te fous de moi, c'est un rêve qui se prolonge pour que je vive au son de ta voix contre toi.
Les célébrités venaient toutes au Carrousel, ou à peu près toutes. Ce qu'on peut dire, c'est que s'il y avait par exemple une première d'un film, il finissait au Carrousel. Et les gens venaient au Carrousel, et les bourgeois de Paris qui recevaient des amis étrangers les amenaient au Carrousel. Et le Carrousel était une référence dans le monde entier. Parce que ces possibilités que nous avions en France, c'était quand même la grande liberté comparativement à ce qui se passait à Londres, à ce qui se passait à Madrid, à ce qui se passait à New York, ce qui se passait à Rome, ou même à Tokyo. Parce qu'à Tokyo, bon, il y avait les geishas, mais c'était quand même très restreint. Puis c'était pas comme nous, avancé comme nous. La meilleure preuve, c'est qu'Hiro Machiko avait voulu voir de près. Je m'étais laissé conduire comme un objet qu'on montre.
Il y a un rôle de tabou et d'interdit. Il n'était pas question de passer à la télévision quand on était au Carrousel ou chez Arthur.
Non, pas du tout. Il n'est pas question de passer à la télévision. Et je dirais même que si un journal parle de nous, ça se finit toujours par un coup de patte, une petite méchanceté. Il se croit obligé de dire des méchancetés. Un événement me revient à l'esprit. Un jour, j'étais à Biarritz. Et puis, il y avait des vagues, il y avait le drapeau orange. Et j'étais avec une amie du Carrousel, j'étais avec Dolly. On était dans les vagues, on se jetait, et puis la vague nous roulait, etc. Et je ne sais pas, à un moment donné, comment ça s'est passé. Mais il y a une vague qui me roule et qui m'emporte au loin. Il y a un courant qui est arrivé et j'ai senti que je me noyais. Je nage d'abord très mal, mais j'étais loin, presque au rocher. Et j'ai fait un signe comme ça, puis j'ai senti que je me coulais, les vagues me roulaient, et il y avait des longues plages silencieuses comme ça, puis une autre vague arrivait, me roulait. C'est ces moments terribles où on revoit toute sa vie. J'ai fait signe comme ça, et quelqu'un a été déporté près de moi par le même courant sur son matelas pneumatique. Et est arrivé, j'ai pu m'accrocher comme ça sur son matelas pneumatique en attendant les secours. Potin de la Commère. Il y avait une belle naïade, etc., qui a failli se noyer, tout ça. Et elle a crié au secours. Et quand les CRS sont arrivés, ils se sont aperçus qu'ils avaient affaire à Bambi, travesti qui passe au casino. Beaux joueurs, ils sont quand même allés la sauver. C'est gentil. Voilà à quoi on a droit, les potins de la Commère, Carmen Tessier, c'est Dantin François. Voilà à quoi on a droit à cette époque. Donc il n'est pas question que la
télévision... Et vous êtes le dessus du panier.
Et on est le dessus.
Alors il faut imaginer celle qui
sont. Et je dirais même qu'un autre jour, j'ai retrouvé ma mère en pleurs, mais c'était peut-être avant la première fois. J'arrive l'après-midi et je la vois. Elle était dans tous ses états, je lui ai demandé ce qu'il y avait. Et il y avait l'émission Reflet de Cannes.
De François Chalet.
Et François Chalet avait montré Coccinelle en train de faire la starlette à Cannes en disant « Voilà, vous la voyez, elle est si belle. » Mais en réalité, c'est un monstre. C'est tout ce qu'il fait. Je ne sais pas si le mot monstre a été employé ce jour-là par François Chalet. Mais l'insulte a été telle que ma mère était bouleversée. Bien sûr, elle le prenait aussi bien pour moi. Voilà comment on était traités. Mais Coccinelle avait la force de résister, de dire « Oui, oui, allez, François Chalet peut dire ce qu'il veut. » Ça m'est bien égal, il a parlé de moi. Moi, j'en souffrais, au fond. C'était pénible. Je n'avais pas cette force qu'avait Coccinelle, parce que c'est une puissance énorme qu'elle avait. Alors, les scandales, c'est bien beau. C'est indispensable dans la vie de Coccinelle. Et d'ailleurs, j'en ai tâté moi-même un petit peu. Je vais raconter le scandale qui s'est passé à Rome. Je vais à Rome, j'avais encore des papiers masculins. Alors, je vais à Rome, mais pas avec une tournée du carrousel. Le patron m'envoie à Rome pour faire une tournée, dans une revue faite sur place par des gens de Rome, et on me met là-dedans au milieu, d'accord. Ça date pas d'hier, c'était pour les Jeux Olympiques de Rome. Bien, personne ne parlait des théâtres à ce moment-là. Et il fallait bien faire un petit peu parler de soi, parce qu'il y avait... On ne m'a pas demandé mon avis, hein, je le dis tout de suite. Il n'y avait absolument rien pour parler de nous. Alors, c'est quand même très ennuyeux. Bien, je sais que c'est les Jeux Olympiques, mais c'est très ennuyeux d'arriver à Rome, faire un spectacle, et que personne ne parle de vous. Enfin, c'est inadmissible. On fait la générale au théâtre, et l'impresario me dit « Venez, nous allons prendre un verre sur la Via Veneto. » Il était minuit, 1h du matin. Oh, je dis « Oui, d'accord, on va prendre un verre. » Ah, il invite 3 personnes avec moi, 4 personnes, 5 personnes. Bon, on y va. Mais vous avez fait quelques photos dans votre sac au cas où on vous en demanderait. On avait toujours à l'époque des photos de soi dans le sac et pour dédicacer au cas où. Je pars avec mes photos dans mon sac. Et arrivent quelques paparazzi qui commencent à prendre des photos. Et bon, on prend des photos, tout le monde, les filles qui étaient avec nous, tout le monde prend des photos. Et puis j'entends l'impresario qui leur dit quelque chose, mais je ne sais pas quoi, je ne sais pas s'il a vraiment monté son coup ou pas. Je l'ai soupçonné, mais j'en suis pas sûre. Alors après, on me dit vous avez des photos ? Vous avez des photos ? Alors, je donne une photo, je fais ma signature avec Bambi, avec un énorme B, comme j'avais, bien emphatique, comme j'avais l'habitude de faire. Et il dit, ah, c'est la Bambi, c'est la Bambi. Et tout d'un coup, au lieu d'avoir 5 paparazzi, il y en a eu 15. Et après 15, il y en a eu 50. Et il y a eu un monde fou sur cette Via Veneto qui a été bloquée. Mais ça s'est pas passé comme ça. Il a fallu que la police arrive pour me dégager parce que j'étouffais, je me sentais complètement écrasée. L'impresario, ça a pris des proportions qu'il n'imaginait pas. Il s'est battu, enfin, c'était épouvantable. Les journaux, le lendemain, en étaient pleins. Mais moi, j'ai été amenée à la police avec l'impresario. On nous a mis dans un car de police, avec toutes les sirènes hurlantes en pleine nuit, 200 paparazzi en moto qui étaient derrière, on nous a amenés au poste de police. Du poste de police, on nous a amenés je ne sais où. Bref, à 9h du matin, on nous amène au ministère. Mais ils poussaient des hurlements. Rome, la ville éternelle, mais alors, si vous avez des papiers d'homme et que vous êtes une femme, vous êtes un monstre. Qu'est-ce que je l'ai entendu? C'était effrayant, mais ça me faisait d'autant plus peur que j'avais dit à ma mère, viens avec moi à Rome, et elle m'attendait dans ma chambre. Et l'impresario me dit, ça va s'arranger. Et comment ça va s'arranger? Eh bien, vous allez signer un papier attestant que vous allez vous couper les cheveux tout de suite en sortant d'ici et vous allez porter un costume et une cravate. Je regarde l'impresario qui me traduisait ça. Je dis, mais on se moque de moi. L'impresario me dit, mais non, signez donc, vous verrez, vous n'aurez rien à faire. Alors j'ai signé et puis je suis reparti comme j'étais, pas comme j'étais venu, parce que je suis reparti en taxi.
Tu vis,
oui.
Marie-Pierre, dans ce monde complètement frivole du cabaret, assez fascinant, mais d'une certaine manière, tu n'en es pas dupe et tu te prépares une sortie de secours.
Les choses me fatiguent un peu. Les choses me fatiguent et surtout, le carrousel, le grand carrousel de la rue du Colisée ferme. Pour moi, le carrousel de la rue du Colisée, c'était quelque chose de grandiose. Ça me paraissait assez grandiose. Et puis les tournées étaient belles. On visitait le monde entier. C'était magnifique. Quand le carrousel ferme, il n'y a plus de revue. C'est un tout petit carrousel qui prend place. Un carrousel qui a 100 places maximum, même pas, je crois. Et il n'y a pas de scène, il n'y a pas de rideau de scène. Ou alors la scène fait 2 mètres carrés. C'est plus un spectacle.
Alors comment une chanteuse stripteaseuse décide de reprendre ses études? Et comment ça se fait?
Ben, comment ça se fait? Ça se fait d'abord parce que je commence à me dire il faut bien que je trouve quelque chose à faire. Je commence à aller dans une école de langue, à l'école Berlitz. Et je me dis, tiens, je vais faire comme tout le monde, je vais apprendre un peu d'anglais, un petit peu d'allemand. Et je commence à aller pendant quelques années. Je me dis, au moins, je ne ferai pas rien. Il y a aussi la lecture. Je me remets à la lecture, je me remets à lire un petit peu ce que j'ai adoré à l'école, c'est-à-dire Racine, c'est-à-dire Molière, un petit peu La Princesse de Clèves, et je découvre, par l'intermédiaire de Jacques, qui m'a mené devant Kio Machico, Proust. Et la lecture de Proust m'amène à me cultiver. Là-dessus, donc, je me cultive, ça dure quelques années, et là-dessus arrive mai 68. Mais je me dis, mon Dieu, mais ça n'est pas le carrousel qui est le centre du monde, c'est la Sorbonne. Mais il faut absolument que j'aille à la Sorbonne, c'est là que ça se passe. Je téléphone à la Sorbonne, je dis, j'aimerais bien m'inscrire, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une licence? Je ne sais même pas ce que c'est qu'une licence. On me dit, d'abord, est-ce que vous avez votre bac? Je m'inscris à une école, à l'école universelle par correspondance, et je passe mon bac en 69, donc tout de suite après 68. Je passe mon bac en 69, je retéléphone à la Sorbonne, et je m'inscris à la Sorbonne, et j'y vais, puis d'année en année, comme ça.
Bon, alors comment les licence. Horaires, comment c'était possible entre le cabaret et les horaires de la Sorbonne?
On ne nous demande pas tellement de présence au cours. J'ai assisté au cours. Je n'allais pas au cours magistraux la plupart du temps parce qu'il commençait trop tôt. Il commençait à 9h, 10h du matin quelquefois. Mais je trouvais des cours l'après-midi. Des cours en littérature, je trouvais des cours l'après-midi. Donc je m'y inscrivais et j'étudiais.
j'ai posé une question un petit peu indiscrète. À ce moment-là, vous avez déjà une nouvelle identité.
Ah, ma nouvelle identité, c'est que elle a été très compliquée, ma nouvelle identité. J'ai pris l'avion, je suis allée en Algérie.
En quelle année ?
En 67, je crois, c'est-à-dire tardivement.
Donc, retour à Bordjmenayel.
Retour d'abord à Alger, oui. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de prendre un taxi, d'aller à Bordjmenayel, d'aller au cimetière et de revoir la maison. Et aux Isères aussi, de revoir tout ça. Et de revoir la Pointe Pescade. J'ai revu tout ça, mais c'est extrêmement...
L'accueil a été gentil à l'aéroport ?
Dans le privé, comme ça, bon, il y a des écoles de haine, mais dans le privé, les gens sont charmants. Quand je vois des pieds noirs qui retournent en Algérie, ils sont embrassés chaleureusement et eux-mêmes se jettent dans les bras des Algériens avec une sorte de bonheur. Oui. Ça, personne ne peut rien faire contre ça. L'Algérie, c'est mon pays et ça restera mon pays. Ça, je voudrais bien ne pas en souffrir, mais je souffre que le rideau de fer soit glissé de l'Europe à la Méditerranée. J'en souffre énormément. Enfin, donc, je vais en Algérie et je prends contact immédiatement avec un avocat qui m'avait été recommandé par l'ambassade d'Alger, l'ambassade d'Algérie à Paris. Je prends contact avec lui et puis ça s'est passé en quelques mois, en 3 mois, 4 mois, ça s'est passé.
La nouvelle identité a aidé pour reprendre les études ?
Ah ben, c'est-à-dire que je crois que je n'aurais pas osé m'inscrire à la Sorbonne avec une identité masculine. Parce que à un appel, on m'aurait dit « Monsieur un tel », jamais j'aurais pu dire que c'était moi, parce qu'il y a eu aussi quelquefois des appels. Jamais j'aurais pas osé. Et puis j'avais une peur bleue qu'on me reconnaisse. Donc,
combien de temps d'études ?
Ben, 4 ans. Je me couchais des fois à 2h du matin parce que j'arrivais à me coucher beaucoup plus tôt. Et j'étais debout à 6 parce qu'il fallait se préparer, il fallait aller faire des stages à Sèvres ou tout simplement dans Paris. Il fallait faire des stages dans les lycées. Ça a duré un an de stage. Je me suis retrouvée prof juste à la limite parce que après 40 ans, on ne peut plus être fonctionnaire, je crois. Donc je me suis trouvée prof à 38 ans ou 39 ans. Donc. Et j'ai commencé ma carrière de prof comme ça.
Combien d'années de professorat ?
30 ans. Mais pas mal. 30 ans, j'ai pas vécu dans la crainte d'être démasqué, comme on dit dans le milieu. J'ai pas vécu dans la crainte d'être démasqué après, parce que je ne pensais plus que plus personne me remarquerait. Mais les 2 premières années à Cherbourg, enfin dans la banlieue de Cherbourg, j'ai eu très peur de ça. J'avais pris des précautions. C'est-à-dire que je sortais à la ville avec une mode qui datait des années hippies, avec un bandeau plus ou moins indien dans les cheveux longs, un bandeau d'indienne dans les cheveux. Et à la scène, j'avais mis une perruque blonde, platine même, avec une frange comme ça, et puis les cheveux qui tombaient, mais pas plus bas que les mâchoires. Si bien que je pensais être extrêmement différente à la ville et à la scène les dernières années. J'avais bien dissocié les deux et j'étais assez tranquille. Mais on ne sait jamais, on peut toujours tomber sur des parents d'élèves qui viennent vous voir et qui vous disent « Mais je vous connais, vous êtes Bambi » ou quelque chose comme ça. Et ça m'avait fait très peur. Surtout, je n'étais pas à Paris. J'étais, les premières nominations, c'est presque impossible de les avoir à Paris. J'étais à Cherbourg, et dans la banlieue de Cherbourg, et il aurait suffi d'un rien pour que quelqu'un me connaisse. Alors, ce qui m'a sauvée, c'est que personne ne pouvait imaginer seulement...
Qu'une ancienne chanteuse et stripteaseuse du Carousel...
Et bien pire que ça, se retrouve professeur dans un lycée quelque part. Ça, les gens, c'est en dehors de leur imagination. Et ça m'a pas mal sauvée quand même. Un jour, j'ai eu une peur bleue. Un jour, quand on est dans les loges... Oh, je dis les loges, ça aussi, ça me faisait très peur. Au lieu de dire la salle des profs, les premiers temps que j'enseignais, je disais les loges, voilà que ça me revient sur le tard. Quand on est dans la salle des profs, vous avez régulièrement des gens qui viennent vous présenter des collections de livres. Bon, alors on feuillette ces livres, on demande quelquefois que le CDI les achète, ou quelquefois on en achète pour soi ou pour offrir. Et un jour j'arrive, j'étais avec un camarade, et je vois une fille qui arrive, dans le couloir, comme ça, près de la salle des profs, elle arrive, je vois qu'elle me fixe et elle fait « Bambi ». et elle est restée sidérée. Je me suis avancée vers elle, comme ça, j'ai pris, j'ai dit, bonjour, comment ça va? Nous nous connaissons? Puis je l'ai amenée loin de tout le monde. Elle me dit, mais oui, vous vous souvenez pas, chez elle et lui, je faisais ce numéro, je sais pas si elle faisait pas un numéro, je sais pas si pas avec des pigeons qu'elle avait dressés, ou je ne sais quoi, elle faisait un numéro. J'ai perdu le souvenir de cette fille-là, mais je sais bien du moment où je l'ai retrouvée à Garges-lès-Gonesse, la salle des profs n'était pas encore au rez-de-chaussée, elle était encore au premier étage. Et je lui ai dit, écoutez, je vous supplie, ne parlez pas de moi à personne, parce que je suis là dans le plus strict incognito, ne le faites pas. Elle a tenu sa langue, elle est très gentille, elle mérite vraiment d'être remerciée. Oh, il y a même un inspecteur qui, en galant homme, fait bien remarquer qu'il avait vu ma date de naissance et qui me dit, mais vous avez un retard de carrière? Qu'est-ce que vous étiez institutrice avant d'être professeur? J'ai été tentée par la vérité, j'ai commencé par dire non, pas du tout. Et puis j'ai préféré le mensonge, j'ai dit j'étais mannequin. Il a rougi. Ça m'a fait plaisir.
Est-ce que le cabaret, ça aide avec les élèves? Parce que c'est un peu pareil, oui. Il y a une estrade, on est...
Oui, le cabaret, ça aide, et chez les élèves, il y a quelque chose du public. En fait, il ne faut pas trop étendre cette notion, mais ce qu'on peut dire, c'est que la première impression est un petit peu semblable. Quand on entre en scène pour faire un numéro, à l'instant où on entre en scène, où le projecteur vient nous cueillir sur la scène, le public sent si on a de la présence ou pas. À cet instant-là, c'est pareil avec les élèves. C'est ça qu'il y a de commun. C'est que les élèves, la première année, le premier jour où on entre en classe, il y a des élèves qui ont l'air, ils ne le savent pas eux-mêmes sans doute, mais ils ont l'air de nous juger, de nous jauger, et ils savent peut-être dans les 10 secondes qui viennent s'ils pourront chahuter ou s'ils ne pourront pas chahuter. Je ne parle pas de travailler, c'est un autre problème. Mais s'ils pourront chahuter ou pas.
Marie-Pierre Isère, est-ce que le fait d'avoir quelques notions de l'arabe peut aider dans une classe aujourd'hui?
Je m'en méfierais beaucoup. Je m'en méfierais beaucoup. Et je ne crois pas que dans une classe où on a quelques jeunes arabes, on puisse par exemple leur faire une réflexion en arabe. Un mot de temps en temps, et à condition que ce soit une plaisanterie, mais il ne faut surtout pas leur faire des réflexions en arabe. C'est déjà les montrer du doigt. On n'est pas censé, quand on est dans sa classe, d'ailleurs on a tendance à l'oublier très sincèrement, on n'est pas censé savoir si les enfants sont noirs, s'ils sont jaunes, si ce sont des bons français, bons teints, des gaulois, comme on dit dans nos banlieues, ou si ce sont des maghrébins. Mais j'ai un amour pour la langue arabe, un amour débordant pour la langue arabe, parce que j'ai fait de l'arabe, et cet amour je l'ai eu immédiatement dès que j'ai connu mon prof d'arabe dans mon collège. C'était Mademoiselle Tubiana, qui était une folle d'arabe. Elle adorait cette langue et ça se sentait. Elle avait des techniques d'enseignement qui étaient formidables. Elle nous faisait faire des petits concours de conjugaison. Elle envoyait deux élèves de force à peu près égale à qui irait plus vite pour faire sa conjugaison du prétérit ou du présent. Enfin bref, et j'adorais cette langue arabe. Et cette langue arabe, je l'aime toujours, bien que je parle très très mal et que je ne la connaisse plus. Et puis on étudiait là-bas 3 heures par semaine d'arabe classique et 2 heures par semaine d'arabe dialectal. Cette langue arabe, donc, je l'adore tellement que j'ai essayé gratuitement, parce que je n'ai pas la qualification, gratuitement de faire des cours pour volontaires à Garges-lès-Gonesse. J'ai vu quelques filles, car nos filles maghrébines sont souvent extrêmement intéressant. J'ai vu quelques filles qui se sont accrochées et qui me montraient leur cahier, le cahier qu'elles préparaient, avec chacune sa présentation, parce que je leur avais laissé toutes les libertés pour s'organiser elles-mêmes, soit un classeur, soit un cahier, etc. Et j'ai vu des cahiers admirablement faits et avec un amour fou part des petites maghrébines, naturellement. Je suis extrêmement flattée, je leur en suis extrêmement reconnaissante. Enfin, cette langue arabe, je peux dire que je l'ai aimée.
Comment est-ce que tu peux écrire un roman qui soit avec la densité romanesque de ta vie ?
Je ne suis pas si sûre que ma vie soit tellement romanesque, à vrai dire. Je n'ai pas vécu ma vie comme un roman, pas assez. C'est peut-être pour ça que j'ai envie d'en faire un roman maintenant, pour la nourrir. J'ai pas beaucoup d'imagination, c'est pour ça que je suis obligée de me servir de ma vie pour écrire. J'écris par nécessité d'écrire, parce que je ne peux pas rester sans écrire, et c'est tout. Mais ma vie, j'aimerais la rendre plus romanesque par l'écriture, à vrai dire. J'aimerais la faire percevoir. Oh, je suis pas sûre, au fond, de ce que je dis. Est-ce que j'ai envie que ma vie soit perçue comme un roman ? Peut-être, j'aimerais qu'elle soit perçue comme un roman. Mais moi, je ne peux pas prétendre qu'elle est perçue comme un roman.
Le roman de Marie-Pierre Isser, « J'inventais ma vie », est publié aux éditions Osmonde. Surpris par la nuit, prise de son Adrien Gaza et Jean-Marie Charron. Mixage Noélie Pellegrin. Réalisation Nathalie Salle. Production Hélène Azéra. Sortilège, piano et luth sur des motifs de Sherif Raddam est interprété par Colette Merklen et Moutlou Toroun. Pour les artistes arabes associés. Bonsoir.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 février 2005.